La philo-lophie, un voyage intérieur
et extérieur
d'Aristote à Zarathoustra.
J'ai comme
Girard,
Gulliver,
Gilles Gaston Granger,
Gorgias,
Gainsbourg,
Gide,
Giscard,
Romain Gary,
De Gaulle,
Giscard,
Georges Sand,
De Gaulle,
Géronimo,
Gottlieb, Gogol, Godard,
Goethe, Juliette Gréco,
Françoise Giroux, J'ai comme
Garcimore, ou le clown magicien.
Bonjour messieurs, dames, bonjour le soleil, bonjour.
C'est toujours intéressant de passer près d'un cimetière. Il y en a un beau, un grand, un fleuri à l'entrée de Felletin. Entre la vie présente et ce terrier pour défunt sous le marbre, cet hallucinant écart qui saute aux yeux devrait nous avertir suffisamment, en permanence, de la place disponible pour tenter à tout moment l'impossible.
Mais comme nous nous endormons, comme nous nous satisfaisons de peu, et comme la mort arrive bien vite pour nous ravir cette vie dont on n'aura pas tiré tout le jus, tout le rire, tout le magnifique possible.
Qui mieux que l'artiste ou le clown ? Pensez par exemple à Leluron, Coluche ou Desproges. Ces inclassables qui feraient trembler les plus prudes des nouveaux moralisateurs si répandus aujourd'hui. Qui mieux que ce clown peut concilier en un numéro, un sketch, un spectacle d'humour, une incartade ?
Notre improbable, difficile, inconcevable et pourtant nécessaire à se représenter destin collectif et nos destins individuels. En modérant le sérieux de ceux qui se prennent au sérieux et en reconnaissant le droit à l'incertitude de toutes celles et ceux qui forment un peuple ou une nation, qu'il le veuille ou non.
Enfant, tout enfant, nous avions peut-être besoin de ces moments de flottement par d'habiles et modestes artistes pour nous représenter nos vies au milieu de l'immensité, nos vies de jeunes êtres humains débutants. Modestement, c'est la mission que semble s'être donnée à un magicien qui ratait ses tours le mercredi après-midi à la télé et qui, à tant de gamins enfermés dans leur tour d'immeuble, offrait quelques minutes de répit et d'insouciance, de rire de soi et d'autodérision assumée.
Cet adulte à l'accent du Portugal au front dégarni, à la mèche sombre et à la souris blanche baladeuse, qui disparaissait et réapparaissait évidemment, jamais ni en ombre ni à l'endroit prévu, ratait ses tours avec une gourmandise et s'exclaffait, bredouillait, riait de ses pitreries infernales.
Garcimore. Alors que face à lui, l'impeccable et maître de soi Majax le magicien réussissait entre ses manchettes de magnifiques tours de cartes et de passe-passe. Ils étaient là tous les deux, Majax et Garcimore. Garcimore et Majax, à nous faire rire et à nous émerveiller en même temps. Le temps de la guerre pour toutes et pour tous, du sérieux de la guerre programmatique et des attentats resserrant le filet de protection qui allait réduire non pas seulement nos usages et libertés, mais surtout cette insouciante liberté d'être et de flâner qu'il y avait en nous, n'avait pas encore marqué autant de points qu'aujourd'hui.
Nous n'avions alors pas d'écran portatif où coller à toute occasion nos yeux, notre bouche et nos oreilles. Nous jouions dans le sable au bas des tours, dans un carré de buissons aménagé en espace de jeu, au tourniquet, au loup, à cache-cache, à cochon pendu.
Même si une vague nostalgie pesait sur nous le soir venu, de retour dans l'appartement, ces fins de mercredi, nous avions ri et joué à en perdre le souffle, et le monde ne semblait pas encore prêt de nous dévorer. Aux côtés de Garcimore, le magicien magnifique qui ratait ses tours, se tenaient d'autres magiciens magnifiques et tout aussi remplis d'humour et de folie douce, comme le maestro Cabu, par exemple, bel ange noir de la liberté, assassiné un 7 janvier d'il y a 10 ans maintenant, et oui, déjà, dans les bureaux de la rédaction de vous savez quel journal.
Des pointures, Garcimore et Cabu, pour notre éducation à la liberté, au droit de se tromper et d'en rire, de ne pas se prendre au sérieux, tout en ayant confiance en nous-mêmes, de quel beau côté de la barrière nous nous tenions. Des éducateurs par la manche, par le côté, de biais, qui, avec leur sourire et leur gentil tour d'acrobate, nous tendaient une perche, suffisamment longue et adroitement dirigée pour nous tenir à l'abri des plus sérieuses entreprises, du moins le croyons-nous.
Mais voilà, des gens très sérieux se préparaient à réinventer la guerre, une guerre obligatoire, comme un modus vivendi, surgissant non pas de l'affrontement de systèmes de valeurs différents, mais depuis la guerre en Irak et ses images en réel, s'implantant peu à peu dans la réalité, même pour nous enrôler tous au quotidien, dans une ultra-violence banalisée, et cadenassés sous la haute surveillance de technologies de plus en plus invasives.
Non, Garcimore n'est plus là pour nous faire rire, et Cabu a payé le prix avec ses copains de la désinvolture et du sacrilège. Le sacrilège pourtant autorisé en France depuis 1891. Le droit au sacrilège, c'est le droit de contester ouvertement l'autorité de Dieu et de la religion sur ma conduite et ma pensée personnelle. C'est le droit de ne pas accepter comme prescription pour soi-même et les autres le discours d'une parole dite révélée. C'est le droit même d'en rire, de rire de la création et de Dieu, du grand magicien lui-même, sans pour autant renoncer à s'émerveiller des mystères qui, çà et là, conservent encore tous leurs secrets.
On peut croire au Père Noël et lui tirer la barbe en même temps. Aucun magicien, à ma connaissance, n'a menacé Garcimore de le tuer s'il ne montrait pas publiquement un peu plus de respect pour la pratique officielle et sacrée de la magie. Mais on oublie en effet que Garcimore et Cabu étaient des artistes, qu'ils offraient au public des issues créatives et singulières à des questions communes ou collective, qui multipliait les moyens du langage en s'engouffrant dans l'humour au lieu de les réduire à une seule vérité, à un dogme, à une croyance, simplifiant dès lors nos destins en une destinée jouée d'avance. « Je vous souhaite de réaliser vos rêves, » disait Brel. La destinée, c'est ce qu'il en aura été d'un être ou d'une chose, une fois sa vie achevée.
Le destin, c'est autre chose, c'est ce qui est encore à jouer devant nous. C'est ce qu'on peut espérer et vouloir faire de sa vie.
Qu'espérait Œdipe, notre cher héros tragique, de lui-même ? On ne le saura jamais, car on le lui a ravi, on lui a ravi son destin dès la naissance, par une divination, une prophétie de malheur.
Cet éloignement qui s'opère entre nous et notre destin possible procède ainsi souvent des ruses et des farfouillements, des scabreuses entreprises des tenants du pouvoir. Ils ont peur de tout perdre. Et le trône, les trônes, contrecarrent dans leur volonté de s'assurer tous les maintiens possibles, nos destins personnels. Et parmi ceux-là, ceux qui feraient jaillir de nous un destin collectif digne de nos attentes, de nos espoirs, de nos visions, même si celui-ci ne se réalise jamais.
Aussi souvent, nos destins collectifs sont-ils happés par un homme ou une femme directrice qui, en châtrant la langue, monothéise le destin en une réalisation prophétique, symptôme des religions, mais aussi des fascismes, des totalitarismes, des sectes et des sociétés dites libres quand elles versent dans d'autres travers.
Que nous le voulions ou non, à la pointe de réaliser quelque chose qui satisferait tout le monde, nous abordons toujours un océan effrayant qui finit par nous dévorer.
Tout ce qui peut nous protéger du risque largement ouvert à travers la création, la parole, le langage, et qui en appelle à l'intelligence, œuvre collectivement à formuler des destins collectifs avec des mots d'ordre déjà bien en place. Mais se situer soi-même, s'aventurer soi-même, se risquer, c'est autre chose.
Le balancement entre tyrannie et démocratie procède ainsi du même besoin de s'aventurer et d'être en même temps protégé. On voudrait à tout coup être protégé. Mais regardez Garcimore et regardez Cabu. Ils ont pris tous les risques sans jamais demander à personne de les protéger. Et ils nous ont enseigné, à nous, enfants, qu'au-delà des illusions collectives, rien ne pouvait nous empêcher de nous exposer à notre propre destin et d'en décider par nous-mêmes.
Ainsi, il semble, selon notre cher Nietzsche, que cela ne soit réalisable qu'à travers des tentatives individuelles. Même si nous sommes plusieurs milliers de gamins à regarder en même temps le même clown s'agiter face à nous, il s'adresse à chacun d'entre nous.
Ainsi, Nietzsche en appelle à la création, aux artistes. Tout destin collectif qui ne s'appuie pas sur des aventures individuelles finit par nous bloquer et nous rendre tous malades, car notre part d'inventivité s'en trouve réduite à néant.
Il n'y aurait peut-être pas d'issue collective, mais pour les nécessités du troupeau, le besoin d'entretenir ça et là, une espérance qui s'adresse à tous, cependant que dans le désordre, quelques gamins délurés s'amusent à nous faire rêver. La philo,
Lofi,
un abécédaire en haute
et basse fidélité,
texte
et commentaire de texte,
Arnaud Gosselin.